Les vagues scélérates, c'est le livre qu'a lu pour elle et pour nous aussi, notre chroniqueuse livre Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Un livre qui traite de rupture amoureuse, signé Hélène Rompré, que vous avez aimé.
Oui, qui est paru chez Québec-Amérique. C'est un roman de 204 pages. Et puis bon, oui, la rupture amoureuse, c'est fréquent. Vous avez des sports originales comme sujet. Mais ici, c'est traité d'une manière nouvelle, je dirais, et puis pas du tout déprimante. Hélène Rompré, c'est une spécialiste de la Première et Seconde Guerre mondiale. J'allais dire, c'est quoi le rapport?
J'allais pas dire ça.
Non, mais elle fait des liens entre les drames, les guerres mondiales, la situation des gens pour qui la vie va être complètement bouleversée, avec ce qu'elle vit comme rupture. Alors, c'est une fille qui a quand même publié là, elle a deux romans jeunesse à son actif, puis un livre pour adultes qui s'intitule « Novembre veut ma peau », qu'elle avait publié chez Tissère. Et là, elle nous arrive avec un livre qui, dès la première page, c'est comme un tsunami dans sa vie, d'où le titre d'ailleurs, « Les vagues scélérates », c'est des vagues très hautes. Elle nous explique ce qu'il en est, puis elle nous dit que pendant longtemps, c'était folklorique, ça. C'était comme le monstre du Loch Ness, là. Quelqu'un avait vu des grosses vagues, mais on n'a pas de preuves. Puis avec le 20e siècle, on a étudié ça, puis des scientifiques ont pu effectivement remarquer ces phénomènes-là. Entre autres, en 1995, une pétrolière en Norvège, là, sur une plateforme, a été engloutie par une vague de 25,6 mètres. Donc, ça fesse. Et c'est ce qu'elle dit qu'elle ressent quand elle vit ce drame-là. Comment ça se fait que ça se passe comme ça? C'est que elle est prof d'histoire dans un cégep, et puis elle est en train de donner un cours, puis là, elle reçoit un message, mais là, elle va présenter une vidéo à ses étudiants sur les guerres, puis c'est ça, les bombes, puis elle se dit, bon, je vais tantôt regarder mon message, et le message qu'elle reçoit, elle dit que c'est comme une vague scélérate parce qu'elle ne l'a pas vu venir. Ça dit, j'ai des sentiments pour une autre femme, c'est fini. On est au début du livre, à la première ou deuxième page, et là, ben, c'est toutes les étapes du choc amoureux qui est brisé comme ça, parce que elle s'attendait pas à ça, parce que cette personne avec qui elle est depuis 4 ans a signé une hypothèque avec elle parce qu'ils vont grandir la maison, puis ils ont même échangé le testament, puis bref.
Et quel manque de courage de lui annoncer ça comme ça.
Oui, en même temps, c'est assez... Surtout qu'elle dit le matin, les dernières paroles qu'il m'a dit, c'est « Je t'aime, on se revoit chez le notaire », quelque chose comme ça. Alors, on sent que cette personne-là soit est traître ou a pris peur, on ne sait pas trop. Alors, elle, première étape, le choc. Et c'est ce qu'elle nous raconte à travers des petits fragments qui parfois font 2 lignes, parfois une page, une demi-page. Parfois, c'est une narration de leur relation, puis d'autres fois, c'est des souvenirs du passé ou des informations, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à la science et à l'histoire. Puis bon, ben, on imagine qu'elle a fait une thérapie, qu'elle a pris des notes ou qu'elle a une mémoire très bonne de tous les petits détails qui se sont passés et qui nous indiquent un petit peu comment elle va traverser ça. Deuxième étape, ben, c'est la culpabilité. Est-ce que c'est moi? Je parle-tu trop? Est-ce que je suis trop émotive? Puis le vide, parce qu'à un moment donné, ces petites filles elle a 2 jumelles, cette femme-là, elle est monoparentale avec 2 filles, puis ils vont à un pyjama party. Et là, je la cite, elle dit « Premier samedi de solitude depuis longtemps. Une enfilade d'heures dont je n'arrive pas à voir le bout. » Plus loin, elle dit « Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, mais quelque chose. » Et effectivement, c'est quand il n'y a plus les obligations, le travail des enfants, que là, on se retrouve seul avec soi-même et que la panique peut prendre et l'angoisse. Ensuite, ben, il y a un lien avec, justement, la guerre. Parce que, en lien avec cette solitude et ce vide qu'elle ressent quand ses filles sont parties, elle nous dit que dans une revue spécialiste en médecine, elle dit, je cite, « Le groupe qui souffre le plus de la solitude, plus que les aînés ou que les marginaux, c'est celui des vétérans. Parce que même les soldats déployés, jamais déployés, subissent les méfaits de l'isolement. Leur existence était camaraderie, lien fraternel, émotion forte, bravoure. Ils sont perdus en civil sans leur peloton. On dit que 20 d'entre eux se suicident chaque jour aux États-Unis. » C'est effrayant, ça, quand on lit ça. Alors donc, elle compare ce qu'elle vit à ce qui se passe dans les conflits à travers le monde. elle a beaucoup de déceptions aussi, parce que là, elle va faire le bilan de, ben, qu'est-ce qu'on a fait, puis où on a été, puis qu'est-ce que j'ai pu dire. Et puis lui, ben, comme il était prof de littérature à l'université, elle lui a montré ses manuscrits, parce qu'elle a rêve de publier. Et puis il lui dit, c'est pas si mal, mais t'es pas Marguerite Duras. C'est pas grave, on peut pas tous être Marguerite Duras. Horreur! Quelle prétention! Enfin, lui, il écrit des poèmes qu'il n'arrive pas à publier lui non plus. Puis au début, devant cette espèce d'abstraction, elle comprend rien, puis elle n'ose pas le dire, mais plus tard, elle va comprendre qu'il se cache pour jamais se livrer finalement à travers des poèmes qu'il écrit. Et puis parfois, ben là, on a des indices à travers tout ce qu'elle nous raconte, puis on se dit, ben voyons donc, que c'est vrai, là, c'est évident, mais quand tu es en amour, tu vois pas toujours ça, évidemment. Alors elle dit, parfois, tu arrêtais de me parler sans m'expliquer pourquoi. Ça me faisait paniquer de subir ton silence sans savoir comment j'avais bien pu te froisser. Quand tu revenais vers moi, tu blâmais mon tempérament émotif qui nuisait, disais-tu, à ton affect et ta concentration. C'est pas rien. Alors, la pauvre, elle va traverser tout ça, mais avec beaucoup d'humour. À un moment donné, elle va chez un médecin qui se trompe en lisant son nom au lieu de l'appeler Madame Rompré. Elle l'appelle Madame Rompre. C'est peut-être un nom prédestiné pour les ruptures. Donc, il y a des jeux de mots, il y a des allusions où elle a beaucoup d'autodérision envers sa situation. Puis lui, ben, il y a des comportements un peu bizarres. Par exemple, à un moment donné, il lui propose d'aller en Gaspésie, puis il trouve que c'est trop loin. Puis finalement, plus tard, il propose d'aller en France. C'est vraiment n'importe quoi. Et puis bon, ben, il y a une attitude un peu snob, un peu prétentieuse. Et puis bon, tout ça nous est expliqué au fil du temps. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retourne dans le passé, à elle, son passé personnel, pas juste le passé de la Première et Seconde Guerre mondiale. Et puis bon, on apprend sa relation avec sa mère, l'intimidation qu'elle a reçue à l'école, et particulièrement aussi une relation avec sa grand-mère, qui dit... T'es mieux de marier quelqu'un de la ville parce que en campagne, on travaille fort, comme si en ville, on travaillait pas, mais en tout cas. Et là, ben, quand sa grand-mère va décéder, elle va faire le ménage. Puis là, ben, elle trouve dans sa bibliothèque un guide pour les étudiants d'une école ménagère de 1939, publié par les frères de l'instruction chrétienne qui connaissent bien ça, eux autres, hein, le travail au foyer. Puis là, c'est très drôle parce qu'elle cite un passage où ils disent que une femme, là, ça doit jamais bouder ou être en colère, ça doit toujours être gentil, il faut calmer nos nerfs. Je cite, la ménagère doit répartir son travail de manière à ce qu'il se fasse régulièrement, sans bruit, efficacement. Il est bon de suivre un horaire régulier pour n'oublier aucune tâche. Fait que là, il met tous les jours de la semaine avec des tâches, le midi de lavage, mardi leur passage, etc. Et le dimanche, l'église. Mais là-dedans, il n'y a aucun moment où il pense à elle, à ce qu'elle doit faire, sortir, se ressourcer pour des amis. Non, non, ça croit qu'elle est finalement juste là pour faire le travail ménager. Et ça montre que c'est comme ça que sa grand-mère a été éduquée. Et puis sa mère, qui n'est pas bien, bien plus tard après aussi. Donc, elle, inconsciemment, elle s'est vouée corps et âme à ce que tout aille bien dans la maison pour être avec lui. Elle s'est oubliée, finalement. Et c'est une des raisons pour laquelle elle est frustrée et déçue. Puis, dans sa thérapie, ben ça, c'est très intéressant. Sa psy, elle dit, t'as pas besoin de faire une thérapie, t'as pas besoin de lire des livres, là. Elle lui donne le secret que je révèle pas tout de suite, qu'on ira lire, mais c'est très intéressant.
Donc,
c'est
un texte... on le veut, le secret.
Oui, ben, elle lui dit, sois une montagne. Puis là, elle comprend pas, mais avec le temps, elle va comprendre... puis elle va devenir une montagne. Alors, c'est très intéressant, la comparaison avec la guerre, parce qu'une guerre, ça commence par être déclaré, les hostilités s'installent, puis il y a une capitulation. Puis elle dit, notre relation, bien, c'est une idéalisation, une dévaluation et un évincement. Donc, c'est fini, ça ne reviendra pas. Et elle est une personne intellectuelle, lectrice, qui est curieuse de tout, et ça se sent dans l'écriture. Elle écrit bien, elle a une expérience de vulgarisation, parce qu'elle enseigne. Donc, ce qu'elle raconte, c'est toujours en parallèle avec son histoire, mais c'est bien dit, c'est bien amené. Et puis bon, ben, c'est pas déprimant, là, parce que des fois, quand on lit une histoire de rupture, c'est larmoyant, c'est pas ça. C'est dur, comme au début, elle comprend pas, mais on voit comment cette femme est forte et va se remettre de tout ça grâce à la nature, grâce à l'espace, puis elle va faire un grand voyage en Gaspésie, puis sur la Côte-Nord, puis c'est plein de vie là-dedans. Et puis, bon, ben, on éprouve énormément d'empathie pour la narratrice parce que qui ne connaît pas ou n'a pas connu une rupture ou a vécu quelque chose de semblable, une déception, on se retrouve là-dedans et c'est particulièrement féminin, féministe et puis c'est touchant finalement. Alors moi, dans un premier temps, j'ai tout lu ça, incapable de prendre une note. J'étais complètement absorbée. Puis après, ben, je l'ai relu une deuxième fois pour être capable de vous dire quelque chose d'intelligent ce matin qui se tenait. Parce que effectivement, c'est pas une histoire de A à Z, c'est plein de petits fragments qui racontent la difficulté de se remettre d'une vague scélérate. On peut dire ça comme ça. Bref, je le conseille à tout le monde, que vous soyez en rupture ou pas. La femme qui est là est très intéressante à suivre. Voilà.
Vous avez été donc happé par les vagues scélérates,
oui.
Écrit par Hélène Rompré et non Hélène Rompre.
Voilà.
Publié aux éditions Québec-Amérique. Merci beaucoup, Anne-Marie. À la semaine prochaine.
Au revoir.